pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous allons parler extractivisme. Nous avons fait déjà de nombreuses émissions concernant l'extractivisme dans plusieurs parties du monde. Aujourd'hui, c'est en Allier que nous allons aller avec Dominique qui va nous parler de l'association Stop Mine 03. Imerys veut extraire du lithium dans des mines en Allier. Mais lors des réunions publiques d'information, Imerys n'a daigné répondre à aucune des questions vitales posées par les habitants concernant notamment les emplois, l'usage de l'eau, les pollutions inhérentes à toute extraction minière. L'association et les habitants doutent de la prétendue moralité d'Imerys. Après quelques informations, ils se sont rendus compte qu'entre 2007 et 2014, les activités minières d'Imerys au Brésil ont provoqué une pollution endémique des eaux souterraines et de surface, privant les populations d'eau potable et des ressources de la pêche. Imerys a été condamné par la justice brésilienne à des amendes pour pollution et à l'obligation d'approvisionner les populations en eau et nourriture. La société n'en a pas pour autant mis fin à ses pratiques destructrices. En 2018, Imerys a été condamné par la justice américaine pour avoir produit un talc commercialisé par le laboratoire Johnson & Johnson qui contenait de l'amiante. En 2018, Imerys est condamné par la justice de l'État du Québec à une amende de 12 500 dollars pour non-respect de la législation environnementale. En 2018, toujours, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc condamne Imerys à une amende de 10 000 euros pour déversement sauvage d'eau chargée de produits toxiques dans un cours d'eau. De quoi douter de la bonne foi de cet industriel ? Alors pourquoi, quand on connaît les dommages que peuvent causer l'extractivisme, pourquoi extraire donc ce lithium ? Eh bien pour construire des batteries de voitures électriques. On voudrait nous faire croire, on voudrait nous faire accepter le désastre que représente cette mine de lithium au nom de la transition écologique. Promue sans la moindre réserve par les industriels et les politiques, la voiture électrique serait le véhicule propre. Or, de la production des batteries à leur durée de vie, leur non-recyclage, en passant par le renouvellement du parc, le poids des véhicules et leurs usages, le caractère écolo de la voiture électrique est un mensonge. Les recherches sont déjà en cours pour trouver des alternatives ne nécessitant pas l'utilisation massive de minéraux tels que le cobalt, qui est à la fois une ressource naturelle finie et un métal toxique. D'ailleurs, l'avenir de ces batteries au lithium est déjà compromis. Aujourd'hui, le principal secteur tirant la vente de ces batteries lithium est la production de véhicules électriques et cette situation devrait perdurer pendant plus de 10 ans avant une éventuelle rupture technologique et de possibles batteries sans lithium. On comprend bien ici que l'enjeu n'est pas de trouver des solutions technologiques écologiques et durables, mais de profiter d'un marché juteux tant qu'il en est encore temps. Alors, on est aujourd'hui avec Dominique qui fait partie de l'association Stop Mine 03. Donc, on va voir un peu avec lui d'abord ce que c'est que ce projet d'extraction de lithium.
On a été mis au courant de ce projet par voie de presse en octobre 2022, où on a été un petit peu surpris parce qu'actuellement, la société qui porte le projet, qui est la société Imerys, exploite une carrière de kaolin sur l'emprise de la forêt des Colettes, un petit peu au sud de l'Allier, à côté de Ghana, c'est pour ceux qui connaissent. Et donc, la commune s'appelle Échassière. Donc il y a un petit peu moins de 400 habitants dans la commune. Et Imerys exploite le kaolin depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Et donc on apprend par la presse qu'ils ont décidé de faire une mine pour extraire le lithium pour les voitures électriques, pour les batteries. Et donc très surpris, des gens qui habitent Échassière ou à côté ou un petit peu plus loin dans l'Allier s'interrogent qu'est-ce que c'est que ce projet, quoi. Surtout sur une annonce faite à l'origine sur 34 000 tonnes de lithium exploitées chaque année sur 25 ans pour 700 000 véhicules électriques de batterie, en sachant qu'il y a moins de 1% de lithium dans la roche. Donc ça veut dire une quantité astronomique. Pour extraire le lithium, ça, c'est impressionnant, quoi. C'est 34 millions ou quelque chose comme ça, quoi. Avant, sur ce même site, il y a eu une extraction de tungstène qui a pollué. On en parlera peut-être après. Et ce qu'ils vont extraire en 60 ans de tungstène, ils vont en extraire en une année la même quantité. À l'échelle, quoi, pour savoir. Parce que les gens, on leur vend, oui, mais vous êtes un pays minier, vous avez l'habitude, vous connaissez. Oui, mais l'échelle, elle est monstrueuse, quoi, par rapport à ce qu'ils ont connu. Ils n'imaginent pas le nombre de stériles qu'il va falloir avoir, quoi. C'est bon, c'est impressionnant. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs réunions. Il y a une association qui était déjà créée, qui s'appelle la défense des forêts des Colettes, qui avait été créée pour s'opposer à la création d'éoliennes dans la forêt. Et cette forêt, c'est une forêt de hêtres qui est de renommée européenne. C'est Natura 2000, SNIEP 1, SNIEP 2, enfin on a tout, quoi. Et donc ils veulent faire ça. Et donc eux, ils ont gagné, il n'y a pas eu d'éoliennes. Mais par contre, la mine avait été écologique. Enfin, on nous la ment comme ça. Voilà, c'est, okay. C'est pour ça, quoi. Ah,
alors justement, apparemment, vous n'avez pas été informé. Vous avez dû vous informer par vous-même, avoir un peu des infos sur l'importance de cette mine, combien de minerais allaient être extraits, etc. Et puis peut-être même la surface que ça allait représenter. À chaque fois, cette société, donc Imerys, comment elle vous a vendu le projet, parce que comme tu le disais, vous n'êtes pas sorti de la dernière pluie, mmh. Vous avez déjà eu affaire à un chantier d'extraction de minerais qui a pollué les sols. Là, il y a tout un discours très très écolo, greenwashing à fond sur une mine propre. Est-ce possible?
D'après eux, oui. Bon, pas complètement propre, mais au maximum propre. C'est-à-dire qu'il y a, d'abord, ils vont la faire enterrer, donc on ne verra pas les poussières, on ne les sentira pas les odeurs, enfin, parce que ça sera enterré. Et le concassage sera fait dans la mine, plutôt qu'à l'extérieur. Mais il y aura quand même une petite usine de concassage par le dessus. Alors, le projet s'appelle Émilie. Bon, déjà, elle n'est pas très jolie, hein, pas comme dans la chanson. Hein, donc, et il y a une charte, pour faire court, qui s'appelle IRMA, Et là, non plus, on ne voit pas dans le cristal, non plus. Tu vois, parce qu'ils utilisent des prénoms super mignons, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout engageant. C'est-à-dire, tu es une entreprise minière, tu dis, oui, moi, je vais faire IRMA, donc c'est une charte de bonne conduite, on va dire, pour faire court. Mais il y a des contrôles, mais ça n'engage personne. C'est-à-dire, s'ils ne font pas, de toute façon, on ne leur dira rien, quoi. Donc déjà... C'est un passeport pour dire, attendez, vous voyez, nous, on est
on est sérieux.
Voilà, on est sérieux, transparent et tout et tout. Et puis, la transparence, on le verra par la suite avec le débat public. Bon, on ne l'a pas bien trouvé.
Mais bon,
on cherche encore. Ils annoncent ce projet. Donc, les gens, il y en a qui habitent à 50 mètres de la mine, quoi. Et déjà, aujourd'hui, ils entendent les tirs de mine, hein, où on fait péter de la dynamite pour sortir le kaolin, quoi. On a une réunion pour la création d'un collectif, voire d'une association. Et donc, après moult péripéties, on arrive à se mettre d'accord sur une organisation associative, mais qui reste un petit peu dans le principe du collectif, donc collégial. C'est-à-dire qu'on décide que toutes les décisions seront faites par assemblée générale.
Des membres de l'association.
De la membre de Stopmine. Et on est Stopmine 03, ni ici ni ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'écolos qui disent bah, « il faut bien qu'on prenne notre part de l'écologie, du massacre écologique ». Mais on dit « de toute façon, s'ils nous la font ici, c'est pas pourquoi ça qu'ils vont arrêter ailleurs et qu'ils vont en faire d'autres ».
D'ailleurs, on va discuter après, si tu veux, de ce monde que ce type de minerai et de pourquoi il est faire,
ouais,
et à quel monde il sert. Donc bon, pour ouais, l'instant on
pour
est l'instant, sur la description
on fait le général,
et après on verra comment... aussi que bah, c'est pas forcément pour nous faire vivre mieux, quoi.
Voilà. Et donc on s'est rendu compte que en fin de compte, même après que ça soit paru dans la presse, même ça a été parlé aux éditions de France 3, Auvergne et tout ça, ils en ont parlé un petit peu, on s'est rendu compte que les gens, ils n'étaient pas du tout au courant, quoi. À 30 km, ils ne savaient pas, quoi. Même déjà à 15 km, ils ne savaient pas. Donc on a décidé d'aller pour une information du public pour expliquer un peu ce qu'on pouvait faire et ce qu'il fallait s'y attendre, quoi, pour cette mine.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de l'actualité des luttes et on continue avec Dominique qui fait partie de l'association Stop Mine 03. Surtout que quand même, vous vous êtes hyper informé, vous avez rencontré des tas de gens pour connaître un peu mieux ce que c'est que l'extraction minière, comment ça se passe, les procédés qui sont utilisés parce que vous n'aviez pas d'infos. Et puis vous êtes aussi un petit peu renseigné sur cette société Imerys,
oui,
qui est tellement propre et transparente. Et vous vous êtes rendu compte quand même que dans le monde, elle avait fait certains dégâts.
Oui,
donc que c'était pas très engageant, quoi. Ouais. Qu'il y avait un discours très joli, etc.
Il y avait
etc.
des casseroles.
Il y avait quelques casseroles.
Et y compris en Bretagne.
Okay.
Donc, parce que bon, ils ont été un peu fous. Leur recherche et leur mine, il y en a un petit peu partout au Chili et tout ça. Et là où les gens, on est obligé de leur apporter de l'eau alors qu'ils pouvaient pêcher. Et maintenant, ils n'ont plus d'eau, quoi. Parce qu'ils ont tout pollué. En plus, là, c'est une extraction un petit peu différente parce que là, c'est sur des anciens lacs salés.
Okay.
Donc là, c'est directement. Alors, ils assèchent pour sortir le lithium, pour en faire sortir le carbonate de lithium. Donc c'est encore un autre procédé, mais là, c'est les quantités d'eau qui sont prises, c'est phénoménal, quoi.
Et sans du tout tenir compte du coup des populations locales qui vivaient et éventuellement de la pêche.
Oui, et puis qui vivent encore, enfin qui essayent. Donc voilà.
Bon, c'était juste pour dire que bah, forcément vous étiez un petit peu méfiant.
Et justement, on a poursuivi la recherche sur cette entreprise. Cette entreprise, il y a deux personnes très très connues, une belge et une canadienne, la famille Desmarais pour le Canada et puis la famille Frère, je crois, pour et ils sont majoritaires dans cette société. Et moi, comme j'ai fait des recherches autres aussi, pour savoir d'où ça venait les fonds. Donc c'est des fonds, 50% c'est chez eux, mais le reste c'est des fonds de placement. Donc ils s'annoncent comme une société belge, multinationale française, mais belge, avec des fonds hollandais, où la démarche de cette entreprise, c'est gérer les matières premières par les marchés. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans les matières premières et qui les mettent sur les marchés. Donc ils font leur profit là-dessus, quoi. Et on verra par la suite, après, tout l'intérêt de tout ça. Quand on leur pose des questions, par exemple, au débat public, en leur disant, mais est-ce que vous nous assurez que la vente de ce lithium, ça sera pour les batteries en France, ou voire en Europe? Ah ben non, on ne peut pas, puisque on est tributeur du marché, mais c'est où le marché? Tu vois, bon, enfin bon. Voilà, donc la boucle est bouclée, quoi.
Évidemment, pour vendre le projet, il y a toujours cette histoire, souvent ce qui est mis en avant, c'est oui, mais ça va créer des emplois. Parce que, bon, ben, on le sait, hein, en France, il y a quand même pas mal de zones où il y a énormément de chômage. Et donc, la population peut être assez alléchée par ce type d'avance. Et donc, vous avez un petit peu cherché hein, pour voir combien d'emplois éventuellement seraient créés par l'ouverture de cette mine.
Tout à fait. Donc, il nous a été vendu 1000 emplois. Bon, depuis, ça diminue quand même.
Oui, apparemment, oui.
Ça diminue quand même pas mal. Et nous, on avait fait un petit calcul par rapport au nombre d'employés à Imerys, le nombre de sites qu'ils ont. Dans le meilleur des cas, c'était 30 ou 40 personnes par site, quoi. Donc, il y avait un petit décalage avec où nous vendaient quelque chose de 500 personnes par-ci, 500 personnes par-là, avec les trucs, et avec les commerces qui vont fonctionner. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque Imerys travaille depuis très longtemps sur sa carrière de kaolin, et Chassière, une petite commune, quand on connaît les autres communes de l'Allier, on voit qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, quoi. C'est morne pleine. Et eux, ils ont boulangerie, trucs, machin. D'où les subventions qu'ils peuvent recevoir par Imerys. Voilà. C'est, oui. Donc on se rapproche un petit peu à une échelle moindre. Mais pareil que pour le nucléaire, tu sais, quand tu vas à Bure, tu as des autoroutes, tu te demandes, il n'y a personne. Voilà. Donc on subventionne les gens pour qu'ils soient d'accord, quoi. En leur disant, mais écoutez, vous êtes quand même des petits-fils de mineurs, donc... la joie d'être mineur, quoi.
Le voilà. Bonheur.
Et alors, du coup, il y a quand même aussi un autre problème dans ces questions liées à l'extractivisme, c'est la question de l'eau. Parce que on voit bien, il y a quand même un gros problème d'eau. Hein, le sud de la France, le nord de la France, enfin, puis partout dans le monde, on voit bien que où il y en a trop, où il n'y en a pas assez, où il y a même des régions où il n'y en a plus du tout. Il fait une chaleur incroyable. L'eau, ça devient vraiment quelque chose, un enjeu hyper, hyper important. Et l'extractivisme nécessite beaucoup d'eau. Donc, vous avez un petit peu fouillé aussi par là. Parce qu'il y a quand même, dans votre région, quelques rivières, un petit peu d'eau quand même.
Et puis on est en stress hydrique depuis des années déjà. Tous les étés, on nous dit, il ne faut pas arroser vos potagers, quoi, quand même. Hein, il ne faut plus laver vos voitures. Et là, ils sont en train de nous parler qu'ils auront besoin de 1 200 000 mètres cubes d'eau. Ça, c'est la déperdition. Parce qu'ils ne nous ont jamais parlé. Alors, ils nous vendent ça comme ça. Les 1 200 000 mètres cubes, ça sera 10% qu'on ne peut pas récupérer. Bon. Mais ça veut dire que c'est que 10%.
Et
les 12 millions, ils vont les trouver où, quoi, si on reste sur la partie basse de ce qu'ils nous ont raconté. Parce que, bon, dans les chiffres, on a quand même quelques doutes. Parce qu'il y a même des chiffres qui ont été annoncés de 20 millions. Alors effectivement, ils ne vont pas utiliser 20 millions, mais ils vont le tirer quand même. Ils en ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc les 20 millions, ils vont les trouver où, quoi ?
distant what I bad things to you. I know you want me too. What if it doesn't work and so well? No one to blame another game. What if it doesn't work and so well? No remorse, no regrets to my very last.
Et on continue avec Dominique qui fait partie de l'association Stop Mine 03. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le procédé là ? Parce que on n'arrive pas bien, pas forcément, on n'arrive pas à avoir une image de comment ça va être extrait ce lithium.
Ouais. Alors déjà quand ils ont commencé à faire leur enquête publique là, le débat, ouais, donc on n'avait pas toutes les données hein, du projet. Y compris, on ne savait pas qu'il y avait, où était le quai de chargement et où serait l'usine de raffinage. On l'a su pendant ce... Tu vois, et toutes les données qu'ils nous disaient, ils nous répondaient toujours de biais, parce que, ah bah oui, mais si le projet était ficelé, il n'y aurait pas besoin de débattre, puisque ça serait déjà acquis, quoi. Ouais. Là, justement, nous, on est des démocrates, donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, donc on avance avec vous, ouais, tu vois. Ouais. Et nous, on se dit, sur un projet estimé à 1 milliard d'euros, s'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, il y a quand même des doutes. Quoi, tu vois, parce que tu n'investis pas 1 milliard si tu ne sais pas ce que tu vas faire. Bon. Et entre-temps, donc, on a appris que le quai de chargement serait à Saint-Bonnet de Rochefort et que l'usine de raffinage serait à côté de Montluçon, une commune qui s'appelle Saint-Victor et un lieu-dit qui s'appelle Lalou. Donc déjà, on commençait à voir un peu l'ensemble du projet, parce que ce qui nous a été vendu, c'est que c'est quand même un projet départemental où il y aura de l'extraction à l'hydroxyde de lithium, tout ça dans la même région pour que ça soit beaucoup plus écologique, à moins de 100 km les unes des autres. Voilà. Donc, tu vois, bon. Donc ce qui se passe, c'est qu'à Échassière, ils font une mine enterrée. Ils ont une usine de concassage, où ils en font un petit peu de la soupe, là où ils mettent beaucoup d'eau, parce que pour aller à Saint-Bonnet, à 15 ou 17 km, il y aura des tuyaux, ben ouais, de la canalisation qui vont aller emmener sur le quai de chargement. Au quai de chargement, ils vont les charger sur des trains, sur des wagons. Ces wagons vont partir à 50-60 km de là pour aller à Montluçon, donc à Saint-Victor. Et là, il y aura l'usine de raffinage. Alors, Il y a une partie des 600 000 mètres cubes qui nous annonce, c'est sur le concassage à échassière, pourra les alimenter par les tuyottes. Et les 600 000 autres mètres cubes qui nous annoncent, c'est à Saint-Victor, à l'usine de raffinage, où là, ils vont utiliser un maximum
d'eau.
Et puis de produits chimiques.
Okay. Ah, voilà l'apparition des produits chimiques.
Parce qu'il y a tous les stériles et tout ça qui nous annoncent. Ils nous parlent beaucoup de ce qu'ils vont sortir de la mine, où là, ils vont tout remettre dans la mine, machin, bon. Ils n'ont jamais entendu parler du foisonnement, mais ça, c'est autre chose. Et donc, ils recherchent actuellement des carrières ou des mines à combler pour pouvoir mettre leurs stériles, parce qu'ils vont tellement en sortir dans l'année. Il faut les mettre quelque part. Mais ils ne nous parlent jamais des stériles, qui ne sont plus vraiment stériles, là, à l'usine de Saint-Victor, parce que là, il y a tous les produits chimiques qui seront dans ces trucs-là. Et ils savent pas, là on cherche.
Il faut faire confiance à la technologie.
Voilà, on trouvera, vous inquiétez pas, on va trouver.
C'est pas, mais on va trouver.
Mais on va trouver. Ouais. Voilà.
Il y a cette histoire d'eau qui est quand même aussi un gros problème avec les produits chimiques que tu disais dans la dernière phase d'extraction.
Ils vont faire l'extraction du lithium avec des acides, de la chaux, des trucs, des machins. Et ça va faire des stériles très pollués. Voilà. Le cycle complet de l'uranium se ferait dans l'Allier à moins de 100 km de la mine. Donc Montluçon, c'est environ 50-60 km. Montluçon, je pense que ça a été choisi parce qu'ils ont une mine aussi dans la Creuse, Imerys. Et à l'intérieur de ce granit, il y a aussi du lithium. Donc ils vont exploiter aussi en Creuse du lithium et ils vont l'emmener à Montluçon. Donc là, déjà, l'écologie, il s'en prend un coup, quoi. Parce que ça va quand même être un site Céveso. Pour l'instant, on ne sait pas le numéro qui va aller avec, mais c'est un site Céveso. Et selon la quantité qu'ils vont utiliser de saloperie, ça sera Céveso 1, 2 ou 3. On risque d'être plutôt sur un 3, quoi.
Et vous avez des relais un peu plus larges d'associations ou de groupes politique qui parle au niveau national ou au niveau régional de ça, ou Stop Mine est un peu isolé.
On a fait quand même un gros travail de liaison nationale voire internationale. Mmh. On a été dans pas mal d'endroits pour avoir des liens entre plusieurs associations, collectifs et tout. Actuellement, on commence à en voir un petit peu les effets quand même.
Comment le public que vous avez contacté, comment il s'organise du coup? Parce que ça a dû déclencher des choses pour s'organiser, peut-être pour vous rejoindre aussi du coup.
Eh bien, c'est ce qu'on espérait, mais c'est pas ce qui est advenu. Les gens, ils s'en tapent complètement, quoi. Ah ouais. Bah, ils écoutent la télé, hein, quand même, beaucoup. Donc c'est quand même la transition écologique. Hein, donc à un moment, si on veut que le climat... il faut la voiture électrique, quoi. Ah. Il faut un petit peu de nucléaire aussi pour alimenter la voiture.
Mais en même temps, ça me fait penser aussi à Bure, puisque à Bure, où il y a le centre de retraitement des déchets, au départ, effectivement, les élus étaient convaincus aussi. Mais du coup, il y a eu un peu la donne qui a changé. Alors, je ne sais pas si ça se passe pareil ici. Les autorités nucléaires avaient donné pas mal d'argent et tout ça pour... parce que Bure, c'est 90 personnes, donc c'est vraiment très peu, pour installer le centre d'enfouissement. Et il y a de l'argent qui avait été versé pour un peu acheter le silence des paysans et tout ça. Et il y a quelques années, il y a eu un peu un retournement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été faites. Et du coup, les agriculteurs du coin sont moins convaincus, par exemple, du centre de retraitement de déchets nucléaires à Bure. Et quand ça se passe ici, quoi. Et
ce qui se passe là actuellement, c'est on essaye de mettre le doigt sur l'eau. Ça peut faire boule de neige, l'eau. Parce que tu as les paysans, tu as les pêcheurs, tu as tout un tas de publics qui aujourd'hui s'en tapent un petit peu du lithium, puisque apparemment on en a besoin. Mais par contre, l'eau, si tu leur dis oui, tu vas rouler en voiture électrique, mais quand tu vas ouvrir ton robinet, tu n'auras pas de flotte, là c'est plus la même, quoi. Et quand tu vois que les paysans du coin, ils captent l'eau, alors on me disait pour une dizaine de paysans, ils ont 500 000 mètres cubes pour l'année. Là, eux, ils annoncent 600 mètres cubes 600 000 mètres cubes pour Émeris. Oui. Mais si tu veux, le partage de l'eau, il y a tant d'eau, c'est tout. Donc, si on partage, les autres, ils ont moins. Et ainsi de suite. Donc ça titille un petit peu. L'eau, ça, c'est un truc qui passe pas, quoi. Et quand tu vois qu'ils sont en train de faire une étude sur les bassins versants par chez nous, pour savoir l'eau, la quantité qui va pouvoir être partagée, ça ne sera connu qu'en 2028, fin 2027-2028. Et quand tu sais que la mine, elle ouvre en 2028, il y a quand même un problème, quoi. Et quand tu sais que ce fameux décret sur la loi sur l'eau n'est pas applicable pour ce genre de projet qui est reconnu d'utilité mondiale, voilà, donc il y en a qui vont être lésés, hein.
Quand même, on va se dire, ok, on a besoin d'énergie, ok. Il faut peut-être résoudre la question du pétrole. De quelle manière? Bon, enfin tout ça. Même si on peut s'interroger si sur la consommation d'énergie, peut-être toute cette extraction, elle va être faite pour faire quoi?
Pour faire quoi? Alors c'est pour avoir l'indépendance de la France, voire de l'Europe. Quoi? Pour les batteries.
Ah oui.
Pour les batteries. Okay. Quand on leur dit, mais les batteries, si on n'a que du lithium, on ne va pas trop avoir une indépendance, quoi, parce qu'il y a d'autres matériaux qu'il faut aller chercher ailleurs et qu'on n'a pas en France.
Comme
le cobalt, le nickel, l'aluminium, on en fabrique, mais pas tant que ça. Et surtout aussi, qu'on parle assez rarement, c'est du graphite aussi. Hein, où là, il y a des quantités quand même impressionnantes, et tout vient de la Chine. Il n'y a pas photo. Et comme beaucoup d'autres choses hein, qui viennent, ou d'ailleurs, ou du Chili, ou tout ça. Donc, si on veut faire vraiment une batterie complète, il faut qu'on importe des choses. Donc, l'idée de l'indépendance, c'est du pipeau, comme le reste, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et donc, ils estiment de faire 700 000 batteries, avec les 34 000 tonnes de lithium qui sortent chaque année. Donc nous, on a fait un petit calcul rapide, parce qu'on s'est un petit peu encore compté quoi, en campagne, et on a vu qu'en fin de compte, ce qui parlait de 700 000 voitures, c'était des SUV.
Ah, oui.
Style Tesla ou machin comme ça. Oui, parce que quand tu fais 34 000 avec 700 000, ça fait 50-60 kilos de lithium, alors qu'une petite bagnole citadine, c'est 10 kilos, quoi.
C'est intéressant de s'interroger sur ces histoires de SUV, comment l'État a pu donner la possibilité aux usines automobiles de construire des véhicules aussi lourds, aussi consommateurs d'énergie, et qui prennent tellement de place, pas du tout en corrélation avec la largeur des routes et des parkings en France. Enfin, c'est une absurdité totale.
Oui, non, parce que si on veut avoir une autonomie de la voiture électrique, il faut passer par des grosses batteries. Si tu veux faire 400-500 km, il faut avoir des grosses batteries. Et les grosses batteries, tu ne peux pas les mettre dans les petites voitures citadines. Donc tu es obligé d'avoir...
Je parlais même de l'essence ou du gasoil, oui. Tu vois. Enfin, là, c'était d'une manière générale. Ouais. Ouais. Mais là, du coup, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des grosses batteries pour avoir plus d'autonomie.
Bah,
quoi.
Oui, si tu veux vendre des voitures électriques, il faut quand même que les gens puissent rouler un petit peu un certain temps, quoi. Parce que dans nos campagnes, nous... Si on peut faire que 150 km, on est vite limité, quoi. Et puis, recharger où quoique, c'est en train de se développer quand même pas mal, hein. Il faut quand même pas l'oublier, ça.
On nous vend la voiture électrique comme un projet écologique, hein, parce que c'est ça, en fait.
C'est, ça, oui.
C'est quand même, là, on est tout dans le tout écolo, quand même, de la mine à la batterie de voiture électrique. Évidemment, vous avez, essayé de réfléchir sur est-ce qu'une voiture électrique, c'est vraiment plus écologique, finalement, qu'une voiture à essence ou...
Non, de ce qu'on a pu comprendre, hein, parce que bon, on n'est pas vraiment des spécialistes non plus, donc, mais avec l'expérience, on commence à apprendre des choses, et puis on parle aussi avec des personnes qualifiées, Isoar, enfin entre autres, et puis d'autres personnes comme ça. Donc on s'est rendu compte que Donc on s'est rendu compte qu'en fin de compte, à la construction d'une voiture électrique, c'est plus polluant qu'une voiture thermique. La voiture thermique commence à être moins écolo, c'est à l'usage. Mais pour qu'on soit à égalité et voire avec un intérêt pour la voiture électrique, alors ça peut varier comme ça de quelques kilomètres, mais il faut rouler quand même 100 000 km avec la voiture électrique pour avoir récupéré la pollution de la thermique. Okay. Parce qu'à la construction, c'est excessivement polluant, quoi. Quand tu veux faire des batteries, bon, déjà, tu extrais plein de métaux et l'extraction, contrairement à ce qu'ils nous racontent, c'est pas très écolo.
Vous en êtes où là? Parce que j'imagine, bon, tu nous as parlé de l'enquête publique, j'imagine qu'ils n'ont pas pris en considération vos questions. Hein, et puis, vos...
Alors c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que moi justement, je ne voulais pas participer à ça, je sais comment ça se passe généralement. Et donc ils se sont enrichis de nos questions. Tu vois, plutôt que ils ont réussi à faire parler certains qui voulaient dire des choses, tu vois. Et donc, sur toutes nos interrogations qu'on leur a apportées, ils ont modifié leurs réponses par rapport à, voilà,
le discours.
Mais le projet reste le même. Ouais, mais ils s'adaptent, quoi, voilà. Donc, un peu comme le capitalisme, il s'est toujours adapté à tout et eux, ils font la même chose, quoi. Et donc, là, à un moment, la plupart s'en sont rendus compte, et là on a un petit peu arrêté de discourir et puis de leur filer des billes, quoi. En clair, c'était ça, quoi.
Carrément. Et vous êtes combien? Ça touche pas, parce que comme on a pu le comprendre, c'est quand même une région qui est pas super habitée.
Ouais.
Vous êtes combien dans le collectif? Comment vous vous êtes construit ce fonctionnement? Comment vous avez avancé ensemble?
Alors l'idée, c'était de pas donner des noms pour qu'ils soient ciblés tout de suite. C'est un petit peu comme tu as un président, un secrétaire, on vient de faire chier, c'est le président qu'on fait chier, et c'est lui qui va au tribunal. Donc on a dit, on doit être tous solidaires, on ne doit pas filer des noms si on n'est pas obligé. Donc on est parti sur cette base-là, c'est-à-dire que...
Un comité plutôt, alors.
Voilà, un genre de comité, et on est tous co-responsables. Co-responsables.
Ouais.
C'est-à-dire, vis-à-vis de la loi, on sera co-responsable. Donc, ça sera plus compliqué, si tu veux, que d'attaquer un président, quoi. Ça ne changera pas grand-chose, mais dans les faits, c'est quand même très important. Au niveau du collectif, et puis comment on est regroupé, quoi. Donc, un soutien, quoi. La cotisation, c'est un prix libre. Comme ça, ça permet à chacun de participer, s'il souhaite. Et donc, on était arrivé à plus de 300 personnes, je crois, ou 400.
Okay.
Mais, si tu veux, y a dans les assemblées, au meilleur du début de la bataille, on se retrouvait souvent à 30-40. Ce qui est pas mal. Hein.
Ce qui est pas mal.
Maintenant, bon, ça c'est un petit peu, parce que un an et demi, ça use, quoi. Mmh. Et surtout, tous les revers qu'on a pu avoir, et tout ça, il y en a qui sont...
Découragés, ouais.
Voilà, et puis ils sont usés, quoi. Ils sont vraiment usés. Donc on a défini que on laissait un peu les vacances passer pour que tout le monde un peu se ressource et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire.
À la rentrée, ouais.
Okay.
Oui, parce que ce que tu me disais, ce que tu dis pas là, c'est que c'est devenu d'un projet régional, c'est devenu un projet d'utilité nationale.
Alors
ça change pas mal de trucs.
Ça, on le savait pas. Enfin. Okay. On ne savait pas, on s'en doutait, mais c'était pas officiel, quoi.
Okay.
Alors il faut se remémorer les dates. La commission du débat public pour le lithium a commencé au mois de mars, avril, et devait finir en juillet, le 7 juillet. C'est une date qui va rappeler beaucoup de choses à certains. Et donc, le 7 juillet, ils nous ont sorti le décret en disant que c'était un projet d'intérêt national, voire européen. Où là, ça change beaucoup de choses. Où là, l'État prend la main sur les choses qu'il avait déjà, mais que ce n'était pas officiel. Là, c'est officiel. Et donc, les permis de construire étaient attribués aux maires, Là, ça passe à l'État. Ouais. C'est l'État qui a la main sur les permis de construire. Il y a une possibilité de restreindre tout le temps à partir pour chaque dossier. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, avant on avait le droit à 6 mois, maintenant c'est 4 mois. Donc quand tu sais que les dossiers qui te filent, c'est 10 000 pages.
Déjà, 4 mois, c'est ou en 6 mois, c'est
et
long.
Et en plus, il n'y a pas beaucoup de photos, tu vois. Donc, c'est... Ouais. Puis des trucs très techniques, quoi. Il faut vraiment dépiauter ça.
C'est fait exprès, d'ailleurs.
Bah, bien sûr, c'est le but. Hein. Alors, cette date du 7 juillet, c'est très important. Parce que ça nous montre comment ils nous ont roulé dans la farine pour ceux qui croyaient qu'on était dans la démocratie. Le 7 juillet, c'était la fin, à l'origine, du débat public. Mais avec les élections et tout le bordel qui s'en est suivi, ça a été repoussé au 31 juillet. Okay. Mais ils sont restés sur leur premier truc d'avant, c'est-à-dire ils ont sorti le décret le jour de la fin du débat public, pour bien nous montrer tout ce qu'on avait pu faire, ils n'en avaient rien à cirer. Eux, leur idée, c'était que de toute façon, ça sera un projet d'intérêt national. Et le plus grave des problèmes, c'est que c'est une mine échelon national, voire européenne. Et ils ont donc, vous êtes au courant qu'ils ont changé le code minier. Et le code minier dit que sur certains points, ils pourront, parce qu'il y a le code minier, il y a aussi des, comment ça s'appelle, des ordonnances européennes ou je ne sais pas quoi, qui disent que les métaux rares sont dans un bien commun avec quelque chose d'obligatoire et c'est une nécessité, si tu veux, pour le futur de l'Europe et du monde même, pour la transition, qui fait que... la loi sur l'eau ne peut ne pas être respectée, que le code de l'environnement peut être détourné. Donc ça veut dire qu'ils ouvrent quand même. Et là, il y a des décrets en 2024 là, qui ont été signés par je ne sais plus lequel. Enfin, un des ministres a signé un décret. Comme c'est un gouvernement Macron, ça peut être très bien le ministre de l'Intérieur. Oui. Tu sais. Ils n'ont pas peur. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en avril 2024, ce décret a été signé, comme quoi ils sont plus obligés de suivre la loi sur l'eau et le code de l'environnement peut être détourné. Donc ça, c'est un point très important, dans le sens où ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais ça, on le savait déjà, mais bon, mais maintenant, ils l'ont écrit, en plus.
Il faut légalement ce qu'ils veulent.
Voilà.
Alors c'est intéressant parce que c'est un projet d'utilité nationale, mais complètement de l'extraction jusqu'à la vente du minerai, un projet privé.
Voilà, complètement. Et là c'est un fer de lance de la France insoumise qui dit que c'est inadmissible, puisque vous parlez d'indépendance de la France, que vous bradez ça à une multinationale, quoi. Donc eux, ils sont contre la mine multinationale, mais ils sont plutôt pour une mine nationale. Ouais. Donc voilà, si c'est la France qui en tire les bénéfices, c'est un bon projet. Si c'est une multinationale, pour nous, que ça soit une multinationale ou nationale, c'est une pourriture, donc on n'en veut pas, quoi. Et c'est pour ça, le ni ici ni ailleurs, quoi. Et ça, on y tient. D'ailleurs, on a sorti un cahier d'acteurs on a le droit à des cahiers d'acteurs pendant la commission des débats publics.
C'est quoi un cahier d'acteurs?
Alors c'est que ça soit un parti politique, une association, un truc patronal ou tout ça, en 4 pages, ils doivent déterminer le pourquoi ils sont pour et le pourquoi ils sont contre ou pourquoi ils s'en foutent. Donc voilà. Et donc nous, on avait décidé de faire un cahier d'acteurs pour répondre à ça, en disant que nous ne voulons ni de la mine à Échassières, ni du quai de chargement à Saint-Bonnet-de-Rochefort, et ni de l'usine de raffinage à Montluçon. Et 4 pages de ni ici ni ailleurs, ni ici ni ailleurs, et à la fin, et de son monde. On a envoyé le cahier d'acteurs, et surprise, publié. Je dis tiens, c'est pas publié, donc je refais un mail pour dire pourquoi vous avez pas publié notre cahier d'acteurs. Donc ils nous ont répondu, ça rentre pas dans ce qui est demandé, machin, on n'a pas compris votre position, pourtant elle était claire, elle est vraiment, on ne peut pas être plus clair. Donc voilà. Donc l'idée maintenant, ça serait de ce cahier d'acteurs, d'essayer de le faire passer dans les médias un peu libres comme ça, pour montrer, voilà, nous, notre position, elle est claire et ils l'acceptent pas, quoi. Alors qu'ils acceptent tout un tas de...
Mais là, ça va, du coup, ça va vous freiner un peu quand même dans votre mobilisation, tu crois? Enfin, ou en tous les cas, dans les possibilités d'agir, hein, plutôt, puisque là, on a un mastodonte beaucoup plus important, quoi.
Bah non, pour l'instant, on a quand même des
prévisions.
Voilà, mais on a quand même des prévisions, parce que si tu veux, pendant les vacances, même si on n'a pas de réunion d'Assemblée Générale, il y a plein de copines et copains qui sont partis par un petit peu partout, qui vont dans ils étaient à l'eau à Mel, il y en a qui vont partir au Portugal pour la deuxième année. Donc il y a quand même des liens qui font, on participe à des tables de presse pour les expliquer un petit peu, voilà. Il se passe pas rien, quoi. Ouais. Il se passe pas rien. Pour la rentrée, on a déjà prévu des genres de conférences un petit peu dans les villes, un petit peu aux alentours et tout ça, un petit peu plus loin, lointaine, quoi, style Lyon, Saint-Etienne, tout ça, quoi.
Ouais, puis rencontrer, j'imagine aussi, d'autres situations similaires, ou bon. S'associer même à d'autres luttes, alors on dirait de territoire, mais on peut dire aussi écologique ou anticapitaliste.
Voilà, tout à fait. La première année, le 6 mai 2023, on avait fait une journée d'information et tout ça, où il y a pas mal de gens qui sont venus. Hein. Plus de 200 personnes sont passées, ou je sais plus, ou 200 ou 300, je ne sais plus. Donc, pour une commune de 400 personnes, c'était pas mal. Et donc, on a réitéré le 25 mai de cette année, mais là, avec plutôt l'optique de commencer à faire des liens et une coordination entre plusieurs luttes, y compris locales, parce qu'il y en a qui se battent au Congo contre l'extraction minière, et c'est une association qui est sur Lyon, qui s'appelle Les Lumières, quelque chose comme ça. Et donc, ils sont venus, et des copains ont fait une marche avec eux, qui est partie, qui a été à Strasbourg au Parlement européen pour porter la bonne parole là-bas, quoi. Bon, le copain qui avait préparé tout un laïus pour un des députés verts là-bas, bon, ça s'est mal passé, il n'a pas tout pu... Bon, enfin...
Voilà.
Mais c'est pas perdu pour autant. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui...
Il y a des liens qui se sont tissés, quoi, voilà, depuis
un an et demi.
Un an et demi, et ça va continuer.
On bouge partout. Donc, il y a quand même des liens. Le projet commence à se faire connaître un petit peu. C'est encore... balbutiement, quoi. Mais on voit quand même il y a quelque chose. Donc, parce que l'idée qu'on a et que moi, personnellement, j'ai, c'est s'il n'y a pas des milliers de personnes à Échassières pour faire des trucs, ça va se faire. Si on reste vraiment que local, il y a beaucoup de gens locaux, ils ne savent même pas qu'il y aura une mine de lithium, encore aujourd'hui, quoi.
Ce qui me paraît intéressant quand même pour conclure, c'est ce qui est intéressant, c'est ok, pas d'extractivisme sur votre région, on comprend bien pourquoi, pour des questions de pollution, d'eau, mais aussi de projets politiques. C'est-à-dire que si c'est pour foutre dans des batteries électriques de SUV, saloper un territoire pour un projet aussi merdique, quoi, en fait, c'est vrai que ça, c'est la pas cause. Très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pour, je sais pas, alimenter des écoles, des hôpitaux, je ne sais quoi.
Ouais, ouais.
C'est vraiment pour alimenter l'économie capitaliste sans aucune réflexion sur la question du climat et
non,
de la,
c'est le profit,
du tout,
quoi.
Du profit voilà. Uniquement.
Parce que là ce qui se pose aussi, c'est que. Et son monde, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si on veut avoir des voitures électriques, il faut de l'électricité. Et pour avoir de l'électricité, il faut refaire des EPR ou en faire. Parce que
aussi,
refaire.
Ça relie avec le nucléaire.
Voilà, donc on fait ce lien aussi, si tu veux. Et ça, dans les discours des autres, il n'y a pas tout ça, quoi. C'est le carbone machin qu'il faut absolument. Oui, mais bon, quand tu fais de l'extraction minière, le CO2, t'en as à l'appel, quoi. c'est un faux problème. L'idée, c'est se poser d'abord la question, qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir, quoi, si c'est...
Quelle société, dans voilà, quel monde on a envie de vivre, et est-ce que dans ce monde-là, il y aura vraiment besoin absolument de SUV électriques, par
sûr.
Exemple, ou de numérique à tout craint, ou de, enfin, de toutes
bien
ces de l'IA, de, du nucléaire.
Oui,
est-ce qu'on peut pas vivre autrement, quoi?
Voilà. Et quand tu vois, par exemple, un exemple tout simple, actuellement, s'ils ont choisi Saint-Bonnet de Rochefort, c'est qu'il y a encore une ligne de train qui passe à peu près régulièrement. Le seul problème, c'est que cette ligne passe à 60 km/h, tellement les viaducs et la voie, elle est complètement à la ramasse, elle n'a jamais été entretenue. Donc l'idée, là, c'est qu'on vient d'apprendre que ben, l'État, dans sa grande bonté pour nous, paysans et bouseux, que grâce à la mine de lithium, il payait les études de réfection de la ligne.
Super.
C'est grandiose. Mais de ce qu'on a cru comprendre, c'est si la mine ne se fait pas, il n'y aura pas de travaux.
Ouais, peut-être plus de trains.
Et plus de trains, et plus de voyageurs et tout.
Tu vois, chantage.
Tu te dis, c'est quoi ce...
Ce monde, ouais.
Avec Dominique, qui fait partie de l'association Stop Mine 03.
Il y a déjà aussi le positionnement de l'après-mine. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés
c'est
dans...
C'est quoi l'après-mine?
Ben, l'après-mine, c'est quand ils ne sont plus là et qu'on a les stériles. On en fait quoi? et donc, ça, ils ne savent pas trop encore. Hein. Bon, il n'y a pas que l'après-mine qui ne savent pas, hein, même la mine, ils ne savent pas non plus. Par contre, ils vont commencer la phase pilote, là, dans pas longtemps. Et donc l'après-mine. Alors l'après-mine, il y a eu un rapport de... Alors, je crois que c'est Géodéris qui s'appelle, où ils ont fait une enquête, ils font des enquêtes comme ça sur l'après-mine. Et ils en ont fait une parce qu'il y a quelques années, il y a une mine de tungstène, toujours sur le même site, qui a été exploitée pendant une cinquantaine d'années, je crois, et qui est fermée là depuis... depuis peut-être 20 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, je ne sais plus. Dans leur rapport, ils ont vu que la pollution du site était telle, au niveau plomb, arsenic et un petit peu lithium, que c'était très dangereux pour les populations, puisque ça explosait le minimum autorisé. Et donc... tous les gens du coin, les mômes, ils vont se balader dans les stériles. Ils font leur potager, ils bouffent leurs légumes. On s'est un petit peu renseigné pour savoir qu'est-ce qui avait été fait pour prévenir la population. A priori, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Donc les gens ne sont pas au courant. Et quand tu te balades sur le site, tu as un panneau interdit au public. Et il y a des trous dans les barrières de partout où les gens ils vont aux champignons, ils vont faire leur vie, quoi. Il y a eu une réunion dernièrement avec la préfète, là, avec toutes les associations et tout ça, où la question a été posée, puisque nous on veut une réunion avec la préfète pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils comptent faire s'ils n'ont pas fait pour prévenir et pour cette pollution. Parce que comme le terrain il est pollué, quand ils vont commencer à faire leur puits d'accès pour la mine souterraine, cette pollution qui est au-dessus, ils risquent de la foutre dans la flotte et un peu partout. Quoi qu'il y ait peut-être déjà, mais on voudrait savoir, quoi. Donc qu'ils fassent quand même une contre-expertise pour savoir où on en est aujourd'hui, au jour zéro, avant l'exploitation. Sinon, on a aussi des contacts avec des avocats pour qu'on connaîtra le dossier complet, c'est-à-dire juste un mois avant l'ouverture de la mine, et pour voir comment on peut s'organiser pour attaquer au niveau administratif cette fois. Voilà.
Bon, ben, en tous les cas, merci beaucoup pour nous avoir donné toutes ces infos. Puis on restera informés, hein, des évolutions de la mobilisation et du chantier par votre biais. Merci beaucoup, Dominique. Donc, tu fais partie de l'association Stop Mine 03. Et peut-être pour finir quand même, non mais on n'a même pas donné les contacts. Non mais franchement, si des gens ont envie de rentrer en contact avec vous, hein, pour vous soutenir, ou pour continuer à réfléchir et peut-être amener eux aussi leur expérience sur leur lutte locale. Ils font comment pour vous contacter?
On a une adresse mail, contact extérieur, donc c'est la première là.
Ouais, c'est contact stop mine avec un S 03@gmail.com. Voilà. De toute manière, votre petit bulletin d'information avec tous vos contacts, vous pourrez les retrouver sur le site l'actualité-des-luttes.info. Okay. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à toi.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.